au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Bonjour, cher Jean Prévost.
Bonjour, Anne-Françoise.
Nous sommes dans le studio de Canal Académie pour la troisième émission de notre série « Le dictionnaire, hier et toujours ». Nous présentons aujourd'hui à nos auditeurs la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie, celle de 1763. C'est la troisième édition du siècle, celle des philosophes, la dernière de l'Ancien Régime. Il y en aura une quatrième en 1798, celle de la Révolution. Cette édition de 1763 paraît sous le protectorat du roi Louis XV, qui était dans sa 48e année de règne. Le duc de Choiseul gouverne, mais à Versailles, l'atmosphère n'est pas très gaie. Louis XV a du mal à se consoler, malgré Anne de Roman, de la mort du duc de Bourgogne, l'aîné de ses petits-fils, survenu en mars 1761. Madame de Pompadour vieillit. Elle mourra le 17 avril 1764, une amie de 20 ans, dit le roi, en regardant passer le cortège qui accompagne le cercueil depuis le balcon de son cabinet d'angle. Rappelons quelques faits. À Toulouse, Jean Collat, accusé d'avoir assassiné son fils, a été exécuté le 10 mars 1762. Il aurait songé à se faire catholique. On sait comment Voltaire défendra Collat et obtiendra sa réhabilitation. Le Parlement de Paris a supprimé la Compagnie de Jésus le 6 août de la même année. Les pères ont été dispersés et leurs biens séquestrés. Les jésuites, confesseurs de la famille royale, ont dû quitter Versailles au grand chagrin de la reine et de ses filles. La guerre de 7 ans se termine. Le trésor est vide. Le pays se désintéresse totalement de cette guerre que nul ne peut poursuivre. Les conditions exigées par les Anglais sont extrêmement rigoureuses, mais comment les repousser ? 1763. C'est une date qui, pour nous, apôtres de la francophonie, sonne bien lugubrement. Celle du traité de Paris, par lequel nous perdions à peu près toutes nos colonies en Afrique, le Sénégal, sauf Gorée, tout le Canada, les îles du Saint-Laurent, la vallée de l'Ohio, la rive gauche du Mississippi, toutes les Indes, à l'exception des 5 comptoirs de Chandernagor, Yanaon, Karikal, Mahé et Pondichéry. Certes, l'Angleterre nous rendait la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Belle-Île, et nous concédait les droits de pêche à Terre-Neuve. Mais nous lui abandonnions le reste de la Louisiane et en fait, toutes nos possessions d'Amérique du Nord et d'Asie passaient aux Anglais. C'est dans ce contexte que paraît la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie, celle des Lumières, celle des philosophes. En effet, Voltaire est entré à l'Académie en 1746, Buffon en 1753 et D'Alembert en 1754, lequel D'Alembert deviendra d'ailleurs secrétaire perpétuel en 1772. Le classement par racine qui avait perturbé les lecteurs de la première édition, celle de 1694, avait été abandonné dès la seconde, celle de 1718. Pourtant, les options fondamentales demeurent en 1718 et en 1740, date de la troisième édition. La description en synchronie et des exemples forgés. Alors, Jean Prévost, en quoi cette quatrième édition de 1763 bénéficie-t-elle des progrès réalisés dans les deux précédentes ? Dans le domaine de l'orthographe d'abord, dans celui des vocabulaires techniques ensuite.
Eh bien, ce sera l'édition qui sera la plus appréciée par toute l'Europe. Et je crois qu'effectivement, c'est peut-être ce qui la met le mieux en relief. Et il suffit d'ailleurs de lire l'épître des académiciens au roi, et dès la première phrase, on associe le dictionnaire de l'Académie française dans lequel on avait d'abord eu pour objet que d'être utile à la nation, est devenu un livre pour l'Europe. Alors un livre de référence, Et effectivement, vous l'avez vraiment bien résumé. D'un côté, l'orthographe, de l'autre côté, les mots, des vocabulaires techniques. Alors, ce n'est pas l'objectif de l'Académie française, mais il y a un effort certain du côté donc de tout ce qui est art et métier. Alors, vous avez évoqué l'encyclopédie des philosophes. On sait que les philosophes sont ouverts sur le monde donc technique, le monde de
Scientifique.
l'artisan, le monde scientifique. Et du coup, il y a des mots qui entrent. D'un côté, on a l'encyclopédie, on le verra tout à l'heure.
Et donc
De
la langue
l'autre
n'est plus la
côté.
première préoccupation.
Alors, la langue n'est plus la seule préoccupation. Je ne dirais pas la première. Cette quatrième édition, par rapport à la troisième, va consolider les premières réformes qui ont été mises en place, notamment pour l'accent grave. On se souvient que l'accent aigu était timide et naissant. Cette fois-ci, il est vraiment installé. Il n'y a plus ce S, mais vraiment l'accent aigu qui va le remplacer dans nombre de mots. C'est le début des simplifications aussi des lettres grecques. De la même manière, en raison parfois, alors c'est assez amusant, de la carence dans les ateliers des caractères accentués, parce que justement on en avait
On avait déjà vu
besoin
ça
de beaucoup plus, eh bien de temps en
précédemment.
temps, dans certaines pages, on voit l'orthographe changer, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'accent
Voilà.
aigu ou d'accent grave. Alors c'est aussi la fin, pour ainsi dire, des pluriels en EZ, ou du singulier bonté, du son E marqué par EZ. Bonté sera TE accent aigu, non plus TEZ. Amitié, non plus IEZ, mais amitié, TI accent aigu. Voilà pour l'orthographe.
Autrement dit, l'orthographe est pratiquement celle que nous avons aujourd'hui.
Alors, on considère qu'effectivement, cette édition, c'est, pour ainsi dire, l'édition de l'orthographe moderne. Hein, à partir de la quatrième édition, on considère qu'on entre dans une orthographe qui, d'ailleurs, sans doute, va se normaliser. On a eu beaucoup d'évolutions entre la première édition et cette quatrième. On en aura moins maintenant entre la quatrième,
C'est
la
ça.
cinquième et la sixième. Et évidemment, l'orthographe va se figer parce que les concours vont commencer au début du 19e siècle. On n'est pas très loin, à 40 ans près.
Bien sûr.
Alors, peut-être du côté des mots, dire aussi que cette fois-ci, et je cite la préface, nous avons donc cru devoir admettre dans cette nouvelle édition les termes élémentaires des sciences, des arts et même ceux des métiers qu'un homme de lettres est dans le cas de trouver dans des ouvrages où l'on ne traite pas expressément des matières auxquelles ces termes appartiennent. On a considéré qu'il y en avait peut-être environ 5 000 qui avaient été ajoutés et un spécialiste du vocabulaire, Michel Dessin, du vocabulaire de tout ce qui concerne les outils du bois, avait fait une étude précise montrant qu'on y ajoutait l'archet, été, le bouvet, la doucine, l'ébauchoir, l'échoppe, le forêt, le grattoir, le guillaume, les mâchoires d'étau, le mandrin, la plane, la varlope. Vous voyez, toute une série de mots bon, qui, quand même, ouvrent pour les étrangers, justement, pour les Européens, un univers un petit peu plus concret. L'Académie reste quand même celle qui forge de très bons exemples, j'allais dire de très beaux, surtout de très bons exemples. Un formidable dictionnaire de l'usage.
D'accord. Alors, 1802 pages en 1740, et maintenant nous avons en 1762 1951 pages. Voilà, donc
Oui, on a
5000 mots nouveaux.
Oui, on a vraiment un accroissement de ce qu'on appellera pompeusement la nomenclature, disons, du lexique qui est défini.
Oui, dictionnaire de l'usage, donc. Et référence pour les étrangers.
Référence pour les étrangers, d'autant plus que on l'a appelé de temps en temps une édition des philosophes parce que les philosophes s'y retrouvent. Avant celle de 1798 qui aura été dirigée par D'Alembert, donc philosophe par excellence, mais édition des philosophes parce que vous l'avez tout à l'heure magnifiquement signalé. Hein, c'est Montesquieu est élu en 1728. Marivaux n'est pas un philosophe, mais en 1742. Mais enfin, il participe d'un certain mouvement moderniste. Voltaire, 1740. 6, Buffon, vous l'avez dit, de Volney, d'Alembert en 1754. Donc, ils n'ont peut-être pas expressément participé à l'ensemble des travaux,
Oui.
mais ils ont forgé une identité de l'Académie française.
Quel arrêt aux pages.
Oui, c'est extraordinaire.
C'est une période passionnante. Le dictionnaire de l'Académie est désormais le dictionnaire de référence pour les étrangers, nous venons de le voir, notamment pour la constitution des dictionnaires bilingues. Mais venons-en à ce genre nouveau venu d'Angleterre, l'encyclopédie. Parlez-nous, Jean, de ce Universal Dictionary of the Arts and Sciences d'Ephraim Chambers, 1728.
Alors, je vais peut-être faire la transition en lisant la définition du dictionnaire de l'Académie pour le mot dictionnaire en 1694 et l'autre édition, la quatrième, donc trois éditions plus loin. Et on va comprendre que ça nous introduit du côté de Chambers.
D'accord.
Dictionnaire en 1694, vocabulaire, recueil par ordre de tous les mots d'une langue. Dictionnaire François, dictionnaire latin, dictionnaire François-latin, dictionnaire par ordre alphabétique, dictionnaire par ordre des racines, par racine, bon dictionnaire, ample dictionnaire. On dit aussi dictionnaire poétique, historique, historique-géographique. Quand on est du côté de la quatrième édition, on a deux articles en fait pour dictionnaire.
Oui.
Un premier qui est à peu près le même, vocabulaire, recueil de tous les mots d'une langue mis par ordre, dictionnaire français, je ne reprends pas, dictionnaire par l'ordre des racines, par racine, donc il rappelle quand même que c'était la première édition, ne manquait pas d'intérêt. Et puis il y a un second article, comme une sorte d'homonyme, et celui-ci nous introduit près de Chambers. Dictionnaire se dit aussi de divers autres recueils faits par ordre alphabétique sur des matières de poésie, de géographie, d'histoire, etc. Dictionnaire poétique, dictionnaire historique, dictionnaire géographique, un dictionnaire de marine.
Oui, le mot matière est important. Hein ?
Il est essentiel, effectivement. Et quand on évoque, dans le fond, cette notion de marine, on n'est pas très loin de Chambers, parce que justement, Chambers va être celui qui, si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas à la maison, vous savez, j'en souffre beaucoup,
oui.
Donc je l'ai consulté plusieurs fois, mais il y a des planches, notamment des planches de marine, des planches de bateaux. Et Chambers a donc publié, Ephraim Chambers, a publié en 1728 à Londres, cette fameuse cyclopédia, et vous avez un accent anglais extraordinaire, donc je n'essaye pas de le reprononcer. Mais quel est cet ouvrage ? C'est le fruit de nombreuses années de travail qui ont été fournies par, dans le fond, ce fils de fermier presbytérien,
oui.
Qui est devenu ensuite auteur famélique. On n'est pas très loin de Diderot, vous savez, on le verra dans le Quartier latin.
Ce sont des ascètes.
Voilà, auteur famélique. Enfin, peut-être ils ne le choisissent pas, mais en tout cas, ils n'ont pas toujours de quoi vivre dans la Londres éditoriale. Et il traduisait aussi du français, d'ailleurs, comme Diderot, nous le verrons, traduisait de l'anglais.
Oui.
Et cet homme de fichier, qui était doué d'une plume très rapide de journaliste, a mené à bien cette tâche, seul, qui a tout de suite intéressé des éditeurs, enfin assez rapidement, avec une liste de souscripteurs. On est dans le début de l'édition, en quelque sorte, qui sait ce qu'est le commerce. Des souscripteurs éminents, il y a une dédicace flamboyante au roi George II. Et le voilà qui entre à la Royal Society. Il a maintenant d'ailleurs un tombeau à Westminster, parmi les gloires de la nation britannique. Et il commence ce travail. Deux volumes qui sont diffusés par une association de 19 des meilleurs libraires de Londres. Et donc, une grande spéculation commerciale.
Et en 1745, il en est déjà à la cinquième édition.
Oui, voilà. Cinquième édition en 1745. 47 disciplines qui avaient été annoncées en préface. Et idéologiquement, des positions un peu réformées qui transparaissent.
Peu illustrées. Peu illustrées.
Peu illustrées, effectivement. Pas assez, en tout cas.
Oui.
Et de ce fait, vous me tendez la perche, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sera un progrès.
Novatrice.
Sera très novatrice, puisqu'avec 11 volumes de planches, c'est vraiment un bond en avant dans cette...
Alors, un succès retentissant.
Grand succès.
Et le Breton, l'éditeur Le Breton,
l'Europe,
se dit que peut-être...
Voilà, bon, l'Europe est aujourd'hui faite. Elle était déjà en route du côté des éditeurs.
Mm-hmm.
Quand un éditeur français, Le Breton, André-François Le Breton, éditeur avisé, prend conscience que de l'autre côté de la Manche, même sans encore le tunnel sous la Manche, il y a un grand succès commercial, bon, il a l'idée de pouvoir faire la même chose peut-être sur le continent. Alors, le 25 février 1745, Le Breton obtient même un privilège royal de 20 ans pour une entreprise qui, en réalité, n'est que la traduction, pour le moment, de la Cyclopédia des Chambers, cette encyclopédie. Et dans un premier temps, il va désigner comme traducteur des gens qu'on a totalement oubliés aujourd'hui, Gottfried Cellius, John Mills, et les voilà partis.
Et Diderot.
Donc, non, pas encore,
en
fait. Il y a rupture assez vite, parce que Cellius est infernal, tant mieux. Parce que derrière, effectivement, on part sur un nouveau traité de société. Et le 21 janvier 1746, voilà finalement aux quatre associés un nouveau traité qui est accordé. Et le 27 juin, la direction de l'édition est confiée à l'abbé, alors je prononce sans doute mal, de Gat de Malve, membre de l'Académie des sciences, mathématicien un peu bizarre, et qui va faire subir les pires difficultés à Le Breton dans un premier temps. Mais il a deux collaborateurs, cet homme-là. Et dans les deux collaborateurs, il a notamment Diderot, qui est connu comme ardent polygraphe, qui écrit beaucoup.
Et bon traducteur.
Voilà. Et c'est essentiel. Et alors, on viendra sur Diderot, mais évidemment aussi d'Alembert. Et comme cet abbé ne va pas donner satisfaction, en 1747, c'est Diderot et d'Alembert qui vont remplacer, finalement, solidairement, ça les unit d'ailleurs, l'abbé de Malve, ou de Malvaise, je ne sais pas comment on disait, je pense qu'on disait de Mauve peut-être même, à la direction de l'encyclopédie.
Alors, novembre 1750, on diffuse 8000 prospectus.
Oui, et je reviens sur ce quoi vous avez beaucoup insisté à juste titre, parce qu'on ne le sait pas assez. Diderot n'a pas été contacté parce qu'il était philosophe, n'a pas été contacté parce que c'était un intellectuel, certes, mais parce qu'il était un très bon traducteur. Et le fait est que Diderot avait déjà traduit un certain nombre d'œuvres, et notamment le dictionnaire de médecine d'un anglais. Et ce faisant, il avait en quelque sorte avancé considérablement ses connaissances dans la traduction. Il y avait une forme d'anglomanie qui régnait. Et Diderot avait donc d'abord traduit l'histoire de Grèce de Temple Stanion. Ça, c'était en 1743. En 1745, les principes de philosophie de Lord Shaftesbury.
Oui.
C'est là où vous mettez vraiment une leçon de mon anglais qui est chancelant. Et puis, en 1746 et 47, le dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie et d'histoire naturelle de James. Et c'était pour cela qu'il avait été repéré.
D'accord.
Et qu'il vient, effectivement.
Donc, tout ça est très technique.
Oui, très technique. Et on a, du même coup, avec Diderot, eh bien, quelqu'un qui va prendre toute son ampleur dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie universelle. Il va la prendre à cœur, comme d'Alembert. D'Alembert, on est venu le chercher parce que lui était déjà célèbre.
Mm-hmm.
C'était déjà un académicien. On sait que c'était le fils naturel de Madame de Tencin et de Destouches. Par conséquent, il avait été élevé. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais l'association des deux hommes issus de la bourgeoisie, Diderot, fils d'un coutelier de Langres, avec les caractéristiques du travailleur, de l'homme sérieux de ce plateau exposé au froid, comme on le sait, d'Alembert, élevé en définitive. C'est un enfant qui a été abandonné, d'Alembert. Et en fait,
naturel.
Oui, vraiment un enfant naturel. Et d'Alembert, élevé par une maman qui n'est pas la sienne, mais qui est la femme d'un vitrier et qui s'occupe de tout ce qui est matériel, concret. On est là dans un monde qui est très éloigné. D'un côté, la traduction, de l'autre côté, les mathématiques avec d'Alembert, dont il était vraiment un génie. Et en même temps, des origines. Alors, des origines, certes, nobles avec Madame de Tencin,
oui, enfin,
mais de l'autre côté,
marginale.
Une enfance, voilà, marginale. Et de l'autre côté, une enfance et une adolescence avec quelqu'un qui était cette fameuse Madame Rousseau, qui l'a fait vivre dans le milieu des vitriers et des artisans, et qui l'appelait sa véritable maman.
Mm-hmm. Hein,
donc, on a là un univers concret. Et l'encyclopédie est sans doute née aussi, cet univers
de ces
concret.
Deux personnalités.
Oui.
Alors, comment expliquer le succès d'une pareille entreprise ? Parce qu'enfin, 72 000 articles rédigés entre 1745 et 1772, 35 volumes publiés de 1751 à 1772, dont 11 volumes de planches, à la différence, donc nous l'avons vu, de Chambers. 150 collaborateurs, 250 000 collections vendues à travers l'Europe, c'est fabuleux!
C'est énorme. Je dis souvent, alors c'est un mot qu'il me faut expliquer parce qu'il existe, je l'ai déjà évoqué, que grâce à l'encyclopédie, nous avons fait évidemment lexicographie, c'est-à-dire la recherche sur les mots, la recherche sur les références correspondant à ces mots, un bond en avant phénoménal, puisque c'est quand même une œuvre colossale. Mais nous avons fait aussi de gros progrès, sans doute qui nous ont permis de distancer tous les autres pays d'Europe en dictionnérique. Je vais m'expliquer sur le mot dictionnérique de Bernard Quémada et que je revendique aussi finalement comme absolument indispensable. La dictionnérique, dans le fond, c'est par rapport à la recherche. C'est Nodier qui avait inventé le mot dictionnérique, hein, et Bernard Quémada lui a donné un nouveau sens. C'est par rapport à la recherche qui, elle, peut se faire en des milliers de pages. Eh bien, le savoir-faire du vendeur ou du fabricant de dictionnaires, donc du libraire en même temps que de l'imprimeur. Mmh. Et là, on a eu un savoir-faire, vous venez de donner les chiffres qui sont quand même époustouflants.
Oui, c'est le métier du fabricant
voilà,
de dictionnaires.
Voilà, et là, on a véritablement eu une expérience extraordinaire qui va être relayée au 19e siècle par Littré et Larousse, Littré du côté d'Hachette, puisque Hachette est l'éditeur, Larousse par lui-même, qui est auteur, éditeur. Et là, ça va nous donner une avance considérable sur... Je reviens d'Heidelberg, qui est vraiment le lieu éminent aussi du travail sur l'étymologie. Mais je ne peux que constater que, dans le fond, les Allemands, qui étaient des linguistes extraordinaires, qui ont fait beaucoup pour notre langue et l'histoire de notre langue, n'ont pas su faire des dictionnaires. Souvent, ils ont été avortés, en quelque sorte, parce qu'on n'arrivait pas jusqu'au bout, et sans doute parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience dictionnaire. Ou à un moment donné, il y a un éditeur qui dit « ça suffit maintenant, il faut publier, sinon on ne vendra pas ». Et un dictionnaire, c'est aussi quelque chose qui se vend. L'Académie aussi, mine de rien, elle a toujours su ce qui est assez exceptionnel. Elle a toujours su se limiter dans le nombre de mots, se limiter dans les définitions, dans les articles. Et moi, je suis admiratif de la première édition à la dernière, dans cette capacité à réguler ce que beaucoup de lexicographes ne savent pas faire. C'est-à-dire, ils commencent un dictionnaire sans se douter qu'il faut quand même s'arrêter à un moment donné.
Il faut conjuguer les chercheurs d'un côté et les fabricants de dictionnaires de l'autre. Les deux talents sont nécessaires.
La question que vous m'avez posée, je me rends compte que j'ai répondu non pas à côté, mais j'ai fait une trop longue introduction sur pourquoi le succès de l'encyclopédie. Je crois qu'elle arrivait à son heure. Et qu'en fait, cette encyclopédie, elle est le résultat de bien des efforts qui ont précédé et qui ont permis de se repérer dans une époque qui avait besoin justement de références. Alors, l'exemple anglais, on vient de le voir. Mais aussi, à côté de l'exemple anglais, le fait qu'enfin, on aboutissait à une œuvre collective. Et là, on se rend compte qu'on ne savait pas travailler ensemble, sauf l'Académie française, mais ça, c'est une sorte de miracle lexicographique et dictionnairique. Mais on ne savait pas travailler ensemble.
Oui, bien, enfin, un microcosme.
Un microcosme. Enfin, 40 personnes quand même, microcosme. Oui. Mais on se rend compte qu'il fallait des esprits libérés, d'abord, de la perception religieuse des savoirs, qui avait dominé tout le Moyen-Âge. D'autre part, il fallait être préparé à lire un répertoire qui soit, comme le dit la préface, raisonné des connaissances humaines. Donc c'est le titre d'ailleurs de l'encyclopédie, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers.
Voilà. Il fallait aussi qu'il y ait un public suffisamment cultivé et curieux pour s'intéresser à cet univers des connaissances techniques, donc des arts et métiers. Arts voulant dire métier en fait, hein, artisanat. Et que se développe aussi l'esprit d'analyse et le goût des synthèses. Et puis alors il y a autre chose qu'on a complètement oublié, puisqu'il y a des planches. Mmh. Et que dans ces planches, on montre une forge. On montre telle ou telle entreprise, tel ou tel atelier.
Les outils.
Voilà, les outils. Bien, il fallait que, aussi, les secrets de fabrication qui étaient jalousement gardés encore au début du XVIIIe siècle d'un artisan à l'autre puissent devenir, eh bien, puissent être portés à la connaissance de tous. Et ça, fallait un certain temps. Donc, tout cela explique un succès extraordinaire. Alors, a posteriori, on a encore d'autres interprétations. Hein. Ça, c'est plutôt en amont. J'en ai trop dit,
en aval,
on pourrait presque dire que c'est le symbole ou l'illustration particulièrement forte du commerce, de la publicité, du rapport éditeur-auteur, d'une équipe de collaborateurs, de la pratique compilatoire aussi. Parce que l'encyclopédie, évidemment, n'est pas issue seulement du travail de chacun des lexicographes qui a composé tel ou tel article. Il y a une formidable compilation. On travaillait dans les académies de province, on récupérait un certain nombre d'informations de ces académies de province. Et du même coup, on comprend très bien que pour les philosophes, ben, l'encyclopédie est représentée quelque chose d'un peu particulier.
Un esprit neuf.
Voilà. Bourdieu disait, c'était dans un article du Monde le 7 décembre 1993, Il faudrait réinventer une sorte d'intellectuel collectif sur le modèle qu'ont été les encyclopédistes. On a cet enthousiasme permanent. Un siècle avant, Michelet, Diderot emporta l'obstacle à force de grandeur. Dans sa vaste entreprise, au peuple des lettres s'unit le peuple financier. Des fortunes s'y engagèrent. Tel y fut jeté sans retour. Une seule dame y mit 100 000 écus. Plusieurs y mirent leur vie. L'encyclopédie, et je dis toujours Michelet, fut bien plus qu'un livre, ce fut une faction. À travers les persécutions, elle alla grossissant. L'Europe entière s'y mit. On a là, bon, l'enthousiasme de Michelet,
oui.
Révolutionnaire, romantique. Et on comprend que c'était véritablement quelque chose d'exceptionnel. De la même manière qu'on a eu au XVIIe siècle l'Académie française, et ce trio, Richelet, Furtière, dictionnaire de langue Richelet, Furtière, le dictionnaire encyclopédique, c'est très important d'ailleurs, l'ancêtre du Petit Larousse, puis l'Académie, la norme, le bel usage, le bon usage, et une grammaire avec des exemples forgés. Au XVIIIe siècle, on a un nouveau genre après le dictionnaire de langue. Après le dictionnaire encyclopédique, on a l'encyclopédie. Quand on évoque l'encyclopédie, il faut comprendre que j'ai forcément le mot escargot dans le Richelet. J'ai forcément le mot escargot dans le dictionnaire encyclopédique de Furtière. J'ai forcément le mot escargot dans le dictionnaire de l'Académie. Je ne l'ai pas forcément dans une encyclopédie. Une encyclopédie va parfois préférer ouvrir un article trait d'union thème qui sera gastéropode. Et c'est d'ailleurs le cas d'Universalis aujourd'hui. Il n'y a pas d'article pour escargot. On renvoie à gastéropode. Vous voyez la différence entre dictionnaire de langue, dictionnaire encyclopédique et encyclopédie.
Oui, l'idée de thème est introduite.
Alors, inutile de dire que les planches aussi ont été une véritable révolution. 11 planches, bon. 11 volumes de plate, comme on disait.
Alors, c'est une œuvre collective.
Oui.
De grande influence. L'encyclopédie est marquée par un double souci. Organiser et offrir la synthèse des savoirs, tout en restant une œuvre de combat et de propagande. Alors, comment s'y sont-ils pris? Qui furent ces géants, on l'a déjà évoqué, Diderot et d'Alembert? L'éditeur des encyclopédistes n'était-il pas effrayé par leur hardiesse? Et quels ont été les obstacles rencontrés?
Alors, les hardiesses, effectivement, sont nombreuses, on y reviendra, parce que Diderot, comme d'Alembert, ont des points de vue. Alors, politique, c'est peut-être exagéré, mais des points de vue sur la religion, des points de vue sur la société. Et l'encyclopédie leur permet de faire appel à d'autres philosophes. Quand on prend...
Opinion qu'ils ne peuvent pas toujours afficher.
Non. Mais peut-être que, contrairement au dictionnaire de Pierre Bayle, dictionnaire historique, qui affichait des points de vue de manière très détournée, dans les notes, à des endroits où on ne l'attendait pas, l'encyclopédie est peut-être plus directe dans ou ses attaques, ou ses enthousiasmes. Bon, parfois, où c'est détourne un article, on peut trouver quelque chose qui est surprenant et qui montre une idée un peu plus avancée qu'on a cachée là. Mais c'est quand même plus direct comme présentation. Mais alors, si on prend les gens qui se trouvaient dans... vous avez évoqué les collaborateurs. Bon, d'Alembert. Qui va écrire par exemple l'article Genève, l'article expérimental. On trouvera des gens comme Dolbach, l'article prêtre, l'article théocratie. On trouvera le chevalier de Jaucourt, qui est énorme dans sa participation. Il y a plus de 17 000 articles qui seront écrits par le chevalier de Jaucourt. Et donc là, je ne vais pas les énumérer. Mais on retrouvera Montesquieu avec un seul article, certes, goût. On retrouvera, on retrouvera Marmontel, on retrouvera
Rousseau.
Oui, bien sûr, pour tout ce qui concerne la musique, la partie l'économie politique aussi. Et donc on a Quesnay pour les fermiers généraux, pour la grammaire aussi.
Condorcet,
bien sûr, Turgot.
Condillac,
Voltaire, qui va traiter de l'éloquence et de l'esprit. Prend pas trop de risques d'ailleurs, Voltaire, dans l'encyclopédie. Ce sont des articles quand même qui sont pas très engagés. Mais il y participe. Et on a, du même coup, toute une pléiade de philosophes, d'hommes de pensée nouvelle. N'oublions pas d'ailleurs les salons. Quand on dit d'hommes, on devrait y avoir davantage de femmes. Mais les femmes sont présentes indirectement par les salons. Madame Dudéfant, Madame...
Elles sont parties prenantes.
Elles réunissent d'ailleurs les philosophes et ajoutent parfois même des finances. Donc on a là véritablement une armée, le mot est peut-être exagéré, mais une faction, dit Michelet, c'est pas totalement...
Jean, dites-nous un mot du dessinateur Louis-Jacques Goussier.
Alors, il s'agit des planches. Et lui, Jacques Goussier, va être contacté par Le Breton et par Diderot. Diderot va être très intéressé par le travail, effectivement, de Goussier. Et au départ, il faut l'avouer, les planches, ça n'est pas ce que Diderot revendique le plus. C'est plutôt une affaire d'éditeur qui sent bien qu'un ouvrage doit être illustré. Alors, on n'est pas encore capable à l'époque, à peu de frais, d'illustrer en pleine page. Donc, on illustre des pages entières, d'où les volumes, les 11 volumes dites de plate, qui sont assortis l'ensemble de l'encyclopédie, qui, rappelons-le, fait 35 volumes. Et ce qui est étonnant, c'est l'aventure de Goussier, qui s'intéresse au travail de Diderot, et qui, en même temps, est touché aussi par, inversement, Diderot est touché par le travail, justement, de description,
des référents.
Il le découvre.
Au fur et à mesure.
Et au fur et à mesure, s'y intéresse. Au début, il l'accompagne. Mm-hmm. Ensuite, il prend des notes. Et pour finir, il est absolument convaincu du rôle essentiel des planches. Ce rôle a été mis en valeur, d'ailleurs, par Roland Barthes par la suite, dans Mythologie, où il montre bien que ce qui est assez étonnant dans les planches, c'est que c'est à la gloire de l'homme. L'homme, enfin l'être humain. Et on y voit partout les ouvriers, dit Roland Barthes, habillés en petits marquis, parce qu'on y montre les artisans. On y montre... Alors quand on ne voit pas l'ouvrier, on y voit la main. Mais la main de l'homme est présente partout. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas les machines sans homme, c'est l'homme dominant la machine et la faisant découvrir à d'autres hommes. Ça, c'est vraiment très beau.
Beaucoup d'idéalisme.
Beaucoup. Et
beaucoup de ferveur.
Alors, ces encyclopédies, il y a Buffon, quand on les planches.
Qui vient de créer le muséum.
Voilà. Ce qu'il faudrait préciser aussi, là, je ne peux pas vous donner dans le détail parce que je refouille dans mes fiches, mais il y a beaucoup de compilations aussi dans ces planches. C'est-à-dire que les académies diverses de provinces avaient déjà des travaux avec des planches. Et on n'hésite pas à reprendre.
Il y a
le grand commerce des planches commence avec l'encyclopédie et le commerce des illustrations va se poursuivre au 19e siècle, au point qu'il y a des étudiants actuellement, aussi bien d'ailleurs des beaux-arts que des étudiants linguistes, que des étudiants de lettres, qui travaillent là-dessus pour repérer un petit peu d'où viennent ces différentes illustrations. Ce n'est qu'en 1856 qu'on aura des dictionnaires avec illustrations en pleine page, de manière assez facile, dans le dictionnaire de La Châtre.
Alors, 900 planches.
900 planches qui vont des calamités de la nature. Et d'ailleurs, dans le Petit Larousse de 1905, quand vous avez un certain nombre de planches illustrant tremblements de terre, illustrant les tornades, etc., elles sont reprises, ce qu'on ne sait pas toujours, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, en beaucoup plus petit, parce qu'évidemment, c'était un grand format, donc in folio. Et de l'autre côté, on a aussi des planches... Alors, qui aujourd'hui, parfois, nous font un peu sourire. On y voit un éléphant... Il ne représente pas vraiment l'éléphant tel qu'on s'imagine. Il y a encore un peu à travailler, mais Buffon n'a pas sous la main non plus un éléphant. On y voit la girafe, le cou n'est pas assez long. Vous savez d'ailleurs, quand on remonte la girafe, c'est sous Louis-Philippe qu'il y a eu une girafe qui a été offerte et qui a remonté comme ça la France entière pour aller jusqu'à Paris, de Marseille à Paris, je crois. Et chaque fois qu'on voit un restaurant qui s'appelle La Girafe, on peut presque être sûr que c'est la fameuse girafe.
Une étape.
C'était une étape, oui. Donc, on a les animaux. On a la chirurgie, qui est très effrayante. On y voit des opérations du cerveau. On y voit, j'en ai une qui me frappe à l'instant, on y voit un crâne trépané avec une foreuse, enfin, à main. Donc,
Un trépan.
Donc, on a vraiment quelque chose là, parfois d'effrayant. On y voit aussi les feux d'artifice et beaucoup d'ateliers. De forge, on y voit les voitures de l'époque.
Alors Jean, des hardiesses qui rencontrent des obstacles.
Oui, alors les obstacles, il y en a eu tout le long de l'aventure, tout au long de cette aventure, notamment à cause ou grâce, parce que tout fait progresser évidemment, mais à cause des jésuites qui voient bien évidemment dans cette édition de l'encyclopédie quelque chose qui nuit à leur perception de la religion chrétienne, à leur politique.
Et peut-être à leurs intérêts.
Et à leurs intérêts aussi. Donc jusqu'en 1761, là où les jésuites vont être en quelque sorte interdits, on va avoir une
guerre.
Pression, une guerre. Alors, moi, je ne me contenterai que d'une année, la première, parce que sinon, on part dans une aventure très longue. Mais ça commence en 1751. Et dans le journal de Trévoux, qui, soit dit en passant, est édité à Trévoux parce qu'il y avait des imprimeries, et on sait combien...
Nous avons évoqué cela au cours d'une émission précédente.
De Trévoux était très vigoureux. Eh bien, dans le journal de Trévoux, sous la plume du jésuite Berthier, on a une critique de l'imitation de Bacon dans le tableau des connaissances humaines joint au prospectus, puisqu'il y avait un tableau des connaissances organisé, un arbre en quelque sorte précis des différentes disciplines présentées. En février, toujours en 1751, c'est la réponse dans la lettre au révérend père Berthier, réponse ironique et cinglante de Diderot, qui, soucieux de publicité, joint à sa lettre le texte de l'article ART. Une vive polémique va s'en suivre et on va bénéficier cette fois-ci de la curiosité du public, ce qui contribue d'ailleurs à entraîner un afflux de souscripteurs. Parce que, en réalité, il est bien possible que le Breton ait déjà compris qu'un peu de scandale ne nuit pas à la vente.
Au lancement de l'entreprise.
28 juin, publication du premier volume, tiré à 2050 exemplaires.
1751, donc.
Voilà. Précédé d'une dédicace flatteuse au comte d'Argenson, garde de Sceaux, et du discours préliminaire donc de D'Alembert. Octobre, donc très vite, juste l'été, attaque vive des jésuites de Trévoux. Ils accusent à ce moment-là l'encyclopédie de critiquer leur enseignement, de rabaisser les rois et les saints, de prêcher la liberté d'expression, de plagier le dictionnaire de Trévoux. Et donc l'évêque de Mirepoix, Boyer, aumônier dans le Dauphiné, met en garde le roi contre toutes les tendances inquiétantes de l'encyclopédie. On a tout ça, évidemment, très très bien raconté, entre autres, par Madeleine Pinault, qui a fait un que sais-je remarquable sur l'encyclopédie. Alors, 18 novembre, l'abbé de Prades, ami de Diderot et collaborateur de l'encyclopédie, soutient avec succès en Sorbonne sa thèse de doctorat. Et quel est celui sur la force duquel Dieu a répandu le souffle de la vie? Telle est la question. Et immédiatement, les jésuites discernent là des positions antichrétienne, et de nouveau, on attaque. Donc on se rend compte que, très vite, ça va être un combat permanent entre Diderot, entre des gens, des points de vue défendus par l'encyclopédie, des auteurs de l'encyclopédie, et aussi donc des hommes d'église qui sont
mais la cour les soutient.
Côté de l'encyclopédie. Alors, la cour est ambiguë, et on a notamment le rôle extrêmement précieux de Malesherbes, qui, du côté de la justice et de la censure, est bien obligé, de temps en temps, d'arrêter la publication de l'encyclopédie.
Mais ça qui a été arrêté plusieurs fois.
Oui, plusieurs fois. Et ça se fait à chaque fois, je ne veux pas donner toutes les dates, ça s'est fait plusieurs fois, mais ça se fait à chaque fois, selon un processus qui est presque amusant aujourd'hui, le Breton est prévenu, en réalité, de la suspension de l'encyclopédie, de la condamnation de l'encyclopédie. Et, du même coup, dans la nuit, on déménage l'encyclopédie, on déménage les volumes.
On met tout à l'abri.
Le temps que tout se calme, et puis ensuite, on repart. Peut-être, quand on évoque la censure, ce qui est plaisant, c'est que le Breton, vous avez bien mis en avant tout à l'heure, est aussi inquiet parfois du ton. Il est bien content qu'il y ait un peu de polémique,
oui. Ça
permet de mieux vendre. Mais quand,
faut pas aller trop loin.
Voilà, quand la censure arrive, là, on ne vend plus. On peut même interdire la chose. Et ça n'était pas des allers-retours. Ça pouvait très bien s'arrêter. Il fallait à chaque fois des influences diverses. Madame de Pompadour, par exemple, était très favorable à l'encyclopédie, notamment par haine des jésuites.
Hein, oui.
Donc, il y avait aussi ici des polémiques et des points de vue. Mais quand Larousse va publier son grand dictionnaire universel du XIXe siècle, et qu'il va mettre au point une souscription qui permet d'avoir un trésor de guerre au cas où il lui faille rembourser ses souscripteurs, il a en tête l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Et pour lui, ce combat qu'a mené l'encyclopédie est quelque chose de vigoureux. Alors, il se trouve qu'on peut difficilement en vouloir à Le Breton, qui de temps en temps, sans le dire à Diderot, enfin, c'est évidemment monstrueux, mais sans le dire à Diderot, supprime ça, il a des passages. Et Diderot va mettre un certain temps à s'en apercevoir. Il ne s'en aperçoit en fait qu'en 1762. Et là, en lisant les textes, il s'aperçoit que bien, le Breton a supprimé des textes jugés un peu trop audacieux. Alors de Diderot, mais aussi de Jaucourt, de Turgot, d'Holbart, etc. Alors là, d'Alembert, lui...
Il s'est retiré.
Oui, il s'est retiré. Il trouve ça scandaleux. Et puis, il est fatigué. Et puis, c'est un homme casanier qui n'est pas...
Il est à l'Académie.
Oui, il n'est pas combatif sur ce plan-là. Oui. Diderot va se battre. Et puis alors, bon, on va assister à toute une série de fâcheries entre Diderot et le Breton. Peut-être même sur certains aspects financiers, parce que Diderot va gagner sa vie, mais c'est
sans
le Breton qui va faire fortune.
Oui, oui, enfin,
c'est peut-être une histoire éternelle.
Oui, bien sûr. Alors, un message tout de même, tout au long de cette entreprise, il y a un progrès possible de l'humanité. Et donc, des idées de tolérance se font jour. Et là, nous sommes à l'aube, dans les années qui précèdent la Révolution, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle.
Oui, et peut-être que celui qui l'a le mieux perçu, tout en n'ayant pas été un rédacteur pour le moins assidu de l'encyclopédie, puisque nous avons vu qu'il avait écrit très peu dans l'encyclopédie, mais il l'a tout le temps soutenu, c'est Voltaire, et qui, dans le siècle de Louis XIV, dira par exemple que cette encyclopédie allait être, il évoque évidemment le XVIIIe siècle, un ouvrage immense et immortel. De la même manière, il parlera de Diderot comme le frère Platon. Donc on sent bien là une sorte de valorisation d'aspect philosophique et ce courage qu'ont eu les encyclopédistes. Alors, en quoi prépare-t-il la Révolution, sans le savoir, puisqu'il n'évoque pas vraiment la Révolution? Sans doute par cet
esprit. Elle n'était pas prévisible.
Non, elle n'était pas prévisible, même sans doute ne l'aurait-il pas souhaité, mais en évoquant cette République des lettres, en évoquant cette ouverture d'esprit, cette tolérance, il est clair que la Révolution était indirectement préparée. Et puis alors, il y a les lecteurs de l'encyclopédie. C'est la bourgeoisie éclairée. La noblesse aussi le lit, la bourgeoisie éclairé, lit l'encyclopédie,
l'achète, se passionne,
la commente, va plus loin parfois. Et qui fera la Révolution française? C'est évidemment, on a toujours dit une révolution bourgeoise, mais c'est vrai, c'est fait par la bourgeoisie qui est imprégnée de l'œuvre de Diderot.
Oui. Alors, un message, nous venons de le voir, progrès possible de l'humanité, un but qui est mentionné dans le discours préliminaire, exposer l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines. Ils ont bien rempli ce but.
Parfaitement. Et la preuve en est sans doute de la suite qui sera donnée à l'encyclopédie, puisqu'elle sera vendue pendant très longtemps. Mon maître, Bernard Quémada, encore dans les années 1940, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pouvait trouver l'encyclopédie sur les quais. Elle restait encore une référence forte, de même que Littré, d'ailleurs, à ce moment-là. Et pendant longtemps encore, on a considéré l'encyclopédie comme une œuvre à la fois porteuse et en même temps monumentale pour l'information. Alors aujourd'hui, qu'elle est sur support informatique, qu'elle est consultable gratuitement sur Internet, on sent bien qu'elle est aussi un lieu de recherche. Alors, pour toutes sortes de chercheurs. Parce que ce qui est merveilleux dans l'encyclopédie, c'est qu'elle touche aussi bien les littéraires, qui vont y trouver évidemment des témoignages à travers ne serait-ce que des écrivains, mais aussi pour les linguistes, qui vont y trouver, par rapport à la grammaire, des informations intéressantes, parce que l'encyclopédie, en gros, est dans le suivi de Port-Royal, dans cette logique, mais aussi les historiens, forcément, les géographes, les économistes, les juristes. Parce que les procès qui ont eu lieu, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'imprimerie, de l'édition. Donc on voit bien que l'encyclopédie, c'est quelque chose qui va toucher énormément de gens. Et c'est peut-être ça aussi qui en fait son rayonnement.
Chacun y trouve son miel.
Voilà.
Pouvez-vous, Jean, pour conclure cette émission, évoquer cette encyclopédie méthodique de l'éditeur lillois Joseph Pankouk, né de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert?
Alors, rien ne me fait plus plaisir que d'évoquer ici, vous allez m'en vouloir parce que anecdotique, il y a quelques années, pas très longtemps d'ailleurs, 5 ou 6 ans, je faisais partie d'un jury de thèse d'un jeune homme qui s'appelait Christophe Rey, qui est devenu le spécialiste aujourd'hui de justement Pankouk et de ce qui a été donc édité. Et alors, dans cette thèse, on parlait tout à l'heure d'aspects monumentaux. Ouais, on évoquait les 35 volumes. Et dans le jury de cette thèse, donc, nous étions plusieurs, et j'avais remarqué que dans le public, il y avait des gaillards vraiment bâtis, vous savez, en V, avec une musculature impressionnante, qu'on voit rarement du côté des thésards. Et le thésard lui-même était impressionnant sur ce plan-là. Il l'était ensuite très vite sur le plan intellectuel et culturel. C'est parce qu'il était champion international de bras de fer. Et en même temps que c'était un fin linguiste et un spécialiste de pancook, c'était un champion du bras de fer. Et donc, dans le public, il y avait aussi des champions du bras de fer. Et alors, j'avais presque envie de dire que pancook, il faut effectivement aussi être solide, comme on me le dit parfois quand je porte mes deux lourds cartables toujours chargés de dictionnaires. Il faut être solide aussi, parce que là, on va se retrouver avec 157 volumes de textes, 40 volumes de planches. Donc, c'est aussi assez physique comme ouvrage. Alors, l'encyclopédie de pancook. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Charles-Joseph pancook. Il est né en 1736.
Il est Lillois.
Il est Lillois. Il est décédé en 1798. Donc, la Révolution déjà a été faite. Cette encyclopédie, avec 40 volumes de planches qui vont être publiés entre 1782 et 1832, eh bien, correspond à un nouveau besoin. Que déclare-t-il en effet dans sa préface ? C'était une nécessité de ne faire de l'encyclopédie que des dictionnaires particuliers.
L'idée... Alors, 39 dictionnaires de matière.
Alors, 157 volumes de texte, 39 dictionnaires de matière, parce que, en réalité, on commence le découpage de cette œuvre énorme, qui comporte des ouvrages, si on réunit ce qui concerne la linguistique, si on réunit ce qui concerne la grammaire et la littérature, eh bien, on a des volumes entiers constitués. Et c'est d'ailleurs le travail excellent de cette thèse de Christophe Rey, qui est maintenant maître de conférence. Eh bien, il avait travaillé sur le dictionnaire en trois volumes intitulé « Grammaire et littérature », qui avait été rédigé par Marmontel pour la littérature.
Et Bosé.
Et
Bosé, pour la grammaire,
et qui, évidemment, correspond aussi à des approches assez modernes, notamment en ce qui concerne l'étude des sons. Et pancook a l'idée éditoriale et pratique d'offrir au public de cette monumentale encyclopédie eh bien, un certain nombre de dictionnaires. Il redécoupe, il reprend les articles, il en fait des montages. Parfois, ces ouvrages sont améliorés. Et voilà comment... vous pouvez d'un seul coup vous retrouver, si vous achetez cette encyclopédie, avec un peu plus d'une centaine de volumes et au moins deux pièces de plus à construire dans votre maison, ou essayer d'aborder le voisin en lui demandant d'abriter ses volumes.
Alors, 40 volumes publiés entre 1782 et 1832.
Ce qu'on peut dire, c'est que cette encyclopédie méthodique de pancook va relancer aussi l'utilisation de l'encyclopédie, et qu'elle permet de ne pas acheter forcément toute l'encyclopédie, mais certains volumes de sciences ou d'astronomie
qui vous intéressent particulièrement.
Chez Larousse, il y a un monsieur qui travaille chez Larousse, du côté d'ailleurs de tout ce qui est scientifique, qui est un descendant de pancook, et qui a travaillé, vous savez, c'est un univers merveilleux, et quand j'organiserai une journée des dictionnaires et des sciences, forcément il sera invité pour nous parler de pancook, et lui évidemment s'intéressait à tout ce qui était, je crois, astronomie, qui faisait un certain nombre de volumes dans l'encyclopédie de pancook.
Très bien. Nous nous retrouverons très prochainement, Jean Pruvot, pour aborder la 5e édition des dictionnaires de l'Académie, celle de 1798.
Justement, oui.
Celle d'après la Révolution. La 4e édition avait représenté le premier succès de librairie de l'Académie grâce à l'abandon du format in-folio pour le format in-quarto en 1765. Il faut encore souligner que ces 4 éditions de l'Ancien Régime, 1694, 1718, 1740 et 1763, constituent le premier volet d'une tradition lexicographique qui représente, quelles qu'aient été les critiques, et dans sa continuité même, une source inépuisable de renseignements sur les états successifs des lexiques français, des arts et des sciences.
C'est absolument cela, oui.
Nous allons nous séparer à regret.
Ah, ça va être difficile.
Cher Jean Pruvot, mais j'ai auparavant quelques annonces à faire vous concernant. Nos auditeurs savent que vous enseignez la lexicologie et la lexicographie à l'université de Cergy-Pontoise, mais ils ne savent pas que Bordas vient d'éditer votre dernier ouvrage, Le dictionnaire des citations de la langue française. Nous lui consacrerons toute une émission avant Noël.
Alors, j'ai peut-être une citation.
Ah.
Là, je viens de l'ouvrir, je ne m'attendais pas à ça, et je l'avais ouvert en me disant peut-être que je parlerai de l'encyclopédie.
Allez-y.
Eh bien, dans ce dictionnaire de citations, j'en prends une, j'en ai donné plusieurs, une de D'Alembert, une de Chateaubriand, une de Victor Hugo, une autre de Jules Michelet, et puis d'autres éléments. Et de Chateaubriand, peut-être celle-ci est très belle. « Chaque auteur bénit son destin de l'avoir fait naître dans le beau siècle des Diderot et des D'Alembert, dans ce siècle où toute la sagesse humaine était rangée par ordre alphabétique dans l'encyclopédie, cette Babel des sciences et de la raison. » Voilà ce que dit Chateaubriand dans Le génie du christianisme en 1802. Et puis, je ne résiste pas à vous donner la suivante, c'est Victor Hugo. Oui, les encyclopédistes,
elle est magnifique.
Diderot en tête, les physiocrates, Turgot en tête, les philosophes, Voltaire en tête, les utopistes, Rousseau en tête, ce sont là quatre légions sacrées. L'immense avance de l'humanité vers la lumière leur est due. Ce sont les quatre avant-gardes du genre humain allant aux quatre coins cardinaux du progrès. Diderot vers le beau, Turgot vers l'utile, Voltaire vers le vrai, Rousseau vers le juste. Voilà ce que Victor Hugo nous décline dans Les Misérables en 1862.
C'est magnifique et nous rejoignons son enthousiasme. Encore ceci, au risque de vous faire rougir, le prix de l'Académie vous a été décerné pour votre livre « Les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture » paru en 2006 chez Ofris. Nous l'avions présenté en son temps. Ce prix vous sera remis très prochainement sous la coupole. Nous en sommes très heureux et vous en félicitons.
Merci, Anne-Françoise.
À très bientôt donc, Jean Pruvot. Et que vivent les dictionnaires !
Vive les dictionnaires !